Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est présentée avec la participation de Numéricable et de la boutique NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel qui parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en avril 2011 et c'est l'épisode numéro 58. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Alors, première fois que j'utilise vraiment mon soundboard et forcément, je me trompe dans l'intro et je dis Asvrivdril. C'est un nouveau mois. Mais il a l'air sympa, 2011. Il fait beau et tout, voilà, c'est ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous parle de toute la technologie, internet, les gadgets, tout ce qui fait notre vie numérique. Et je suis comme toujours pour cette émission classique, on l'appelle classique et pas classique en fait. Quand il y a Jeff, c'est l'émission classique, et quand il y a plein d'autres gens, c'est l'émission pas classique. Mais pour l'émission classique, je suis avec Jeff. Comment vas-tu, Jeff?
Ça va très bien, bonjour à tous. Je vous appelle depuis le nord de la Californie, à Tao, où je passe quelques petites vacances avec la famille et où je travaille l'après-midi.
C'est bien. Donc, effectivement, on risque d'entendre derrière les gens qui s'amusent pendant les vacances. Mais c'est très bien parce que, comme je le dis toujours, les podcasts, c'est fait à la maison et c'est comme ça que c'est le meilleur. Et donc, bien silencieux et tout sage derrière, il y a Lionel. De Techno IT qui se joint à nous pour une deuxième fois, je crois.
Une troisième fois, il me semble.
D'accord.
Salut Patrick, salut tout le monde, salut Jeff, salut la chatroom.
Salut à la chatroom aussi, qui est en forme, comme toujours. Et alors, la chatroom m'annonce que, évidemment, on entend que moi et pas tous les autres. Donc, ça veut dire que je vais devoir changer un petit peu les choses. Hop! Comme ça, on n'entend plus personne. Alors, est-ce que comme ça, on m'entend? Pas du tout.
Moi, je t'entends.
Toi. et alors là, on entend Lionel et pas...
Moi, je suis là, moi, je suis là.
Allô, allô, allô.
Et là, on ne m'entend pas. Et c'est là, ça. Normalement, on devrait m'entendre aussi. Et les autres, vous pouvez parler?
Oui.
Ouais.
C'est bon.
NoWatch.fr. Et on entend tout, c'est magnifique, ça remarche. Écoutez, je pense que c'est sans doute une expérience excellente pour le montage et le mixage en direct. Bon, en tout cas, ça marche. Bah, écoutez, ça nous servira d'intro comme ça. Et puis, on peut se lancer immédiatement dans l'émission puisqu'on a beaucoup de choses à dire.
C'est l'épisode qu'on appelle le cafouillage.
Non, mais j'explique aux gens. En fait, je suis en train de mettre en place vraiment une machine de production complète sur le Mac et je maîtrise pas encore tout complètement parce que je fais comme vous l'aurez, enfin, comme les gens de la chatroom l'entendent, il y a les effets, le streaming, enfin, bref, tout passe par le Mac. C'est un peu plus compliqué puisque je ne connais pas. Donc voilà, et donc on va se lancer dans l'émission puisqu'on a beaucoup de choses dont on doit parler, notamment Amazon et l'industrie de la musique, les géants du net qui se battent contre l'État français, attention, contre la loi, Google qui change un peu tout, YouTube qui fait des nouvelles choses, etc., etc. Il y a beaucoup de choses dont on peut discuter et on va commencer tout de suite avec Amazon qui a lancé il y a une dizaine de jours un nouveau service, un service en fait qu'on attendait chez d'autres comme Google ou Apple, mais que Amazon a lancé en premier. Ils ont vraiment dégainé les premiers sur ce coup. C'est un service de stockage de musique en ligne. C'est-à-dire que la manière dont ça fonctionne, vous téléchargez un petit logiciel qui va scanner la musique que vous avez sur votre système, qui va mettre cette musique dans le cloud chez les services Amazon et qui va vous permettre de le streamer de n'importe où. Donc d'écouter votre musique de n'importe où et vous n'avez pas besoin de la copier sur tous vos ordinateurs ou sur tous vos appareils. Ils offrent un petit espace de stockage gratuit. Si vous achetez de la musique chez eux, vous avez plus de stockage, une vingtaine de gigas gratuitement. Mais ensuite, chaque giga supplémentaire coûte $1, si je ne m'abuse, par an. Voilà, je crois que j'ai à peu près résumé. Ce qui était un petit peu surprenant, c'est qu'ils ont vraiment tiré les premiers. Et ce qui était très surprenant, c'est qu'en fait, ils ont lancé ce service sans consulter et sans trouver d'accord avec l'industrie de la musique. Parce que c'est un petit peu ubuesque comme situation, mais il se trouve que la musique que vous avez achetée en MP3, que ce soit sur iTunes ou ailleurs, vous avez le droit de l'écouter de vos appareils, mais si vous voulez la transférer sur un service en ligne, et ce qui est déjà possible avec des services comme Dropbox par exemple, et l'écouter depuis ce service en ligne, eh ben, votre musique n'a pas la licence pour ce type d'utilisation. Donc concrètement, ça veut dire que Amazon, en théorie, n'a pas vraiment le droit d'offrir le service qu'elle est en train d'offrir. Vous avez entendu parler de cette histoire ? Tous les deux ?
Ce qui est intéressant, c'est qu'Amazon utilise son poids dans le marché pour développer cette fonctionnalité. Et je suis sûr qu'ils ont vérifié avec leurs avocats maintes et maintes fois pour voir quelles étaient... En gros, il y a la ligne, et de quel côté de la ligne tu te trouves définis, quelle est ta possibilité de jouer un peu avec la loi sur ce qui est à toi, ce qui n'est pas à toi, ce qui est licencié, pas licencié. Et donc, c'est intéressant, comme tu le disais, qu'ils étaient les premiers à se lancer là-dedans, ce qui est essentiellement un stockage pour le moment. Mais à un moment ou à un autre, ça va être, une fois que tu as stocké ta musique dans le cloud, tu peux aussi l'écouter dans le cloud, et ça va devenir un concurrent réel d'iTunes ou de ce fameux iTunes dans le cloud que tout le monde attend et que Apple n'a toujours pas sorti.
Ouais.
Mais ce qui est marrant, c'est que Apple était en négociation avec les majors et les principales compagnies, et que a priori c'était très compliqué, qu'il y avait évidemment des réticences de la part de l'industrie de la musique, évidemment, comme souvent. Et c'est Amazon n'a pas fait dans la demi-mesure, quoi. Ouais. Ils se sont dit bon, ça y est, on y va, et puis
merde, quoi.
C'est
un petit peu l'impression qu'on a, ouais. Ils se sont dit bon, ils ne veulent pas faire les choses comme il faut. Ils sont en train de perdre du temps en pensant. Enfin, c'est l'impression qu'on a. Hein, c'est pas du tout ce qu'Amazon a dit. Et puis on se lance, et puis merde. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que imaginons que demain Google et Apple fassent la même chose, ça serait une telle puissance financière que pour le coup l'industrie de la musique ne pourrait pas dire ah ben non, ça va pas, il faut arrêter. Il pourrait pas dire arrêter ses services tout de suite, puisque l'ensemble, enfin entre Amazon et Apple déjà, c'est une énorme partie des ventes de musique. Si en plus on rajoute Google, enfin c'est une puissance de feu phénoménale, quoi.
Patrick, juste, il y a quelque chose qui m'a échappé ou que j'ai pas bien compris. Est-ce qu'il y a un player ou quelque chose qui permet de lire la musique directement au travers un petit logiciel, un plugin quelconque qui est offert également avec le service, ou c'est juste un espace de stockage ?
En fait, il y a un player sur le web. Il y a aussi des apps qui vous permettent de lire ça sur Android, si je ne m'abuse, mais pas sur iPhone, en tout cas pas encore. Enfin, iPhone, iPad, tout ça. Mais il y a effectivement un player sur l'espace web. Mais c'est tout.
D'accord.
Mais là où c'est... Oui, vas-y, pardon.
Excuse-moi. Je pense que ce qui va être intéressant, c'est de d'observer l'aspect social qui va graviter autour de ce service. Dire par exemple, je suis en train d'écouter, comme ça se fait, hein, d'ailleurs, il me semble que Windows Live le fait déjà, je suis en train d'écouter telle ou telle musique ou voici ma liste musicale préférée. Enfin, il y a des possibilités au niveau social qui vont être intéressantes, je pense.
Oui, ça c'est sûr, ça c'est un des aspects intéressants. Bing, effectivement, le fait déjà. Il y a une app dont on parlait dans Upload qui s'appelle Soundtracking, qui est très bien, qui vous permet de faire ça. À vrai dire, il y a un des éléments qui me surprend dans cette action en justice des ayants droit, c'est que si Amazon avait une copie du morceau et qu'il vérifiait sur votre disque dur que vous l'aviez et ensuite il vous streamait leur copie, il vous donnait l'accès à leur copie, j'aurais pu comprendre que ça nécessite une licence particulière. Mais si vous-même vous mettez votre fichier sur oui. leur cloud, enfin c'est quand même votre fichier qui est... Mais bon, mais ceci dit, c'est... Pardon Jeff, vas-y.
Oui, tu sais bien que les majors ont toujours eu une définition très claire de ce qu'ils voulaient te voir utiliser et pas utiliser. Lorsque Apple a mis en place le premier iPod, ils ont dû aller négocier de façon très tendue pour permettre ça. Et je pense que, comme on le disait au début, Amazon a utilisé son poids dans le marché en disant « ça va prendre des années pour négocier cette nouvelle extension ».
Téléphone.
Essayons de voir ce qu'on peut faire.
ouais, non, c'est sûr. Ils ont dû. T'en fais pas, hein, Jeff. C'est pas grave si le téléphone sonne. Fais comme chez toi. Et donc oui, ils ont dû effectivement essayer de forcer un petit peu les choses. A priori, à mon avis, ils vont négocier. Il y aura quelque chose qui va se passer. Ils vont négocier quelque chose, mais ça va sans doute accélérer le mouvement. Et puis une autre. Si on part un petit peu dans une autre direction, il y a un autre truc qui est assez surprenant, c'est à quel point Amazon est en train de se positionner un petit peu en ninja, discrètement, sur tous les segments de l'accès aux biens dématérialisés, que ce soit avec la musique aujourd'hui, avec à la vidéo, avec le service dont on avait parlé la dernière fois d'accès de vidéos en streaming, avec les livres, avec le Kindle, ils vendent plus de livres électroniques qu'ils n'en vendent en physique, et pourtant c'est l'un des plus gros libraires du monde, Amazon. C'est comme ça qu'ils ont commencé, comme on le sait. Enfin, ils sont vraiment en train de se positionner comme un acteur majeur et personne ne s'en aperçoit. Enfin, c'est surprenant, quoi. Apple est évidemment monstrueux et énorme et tout le monde le sait, mais Amazon, ils sont en train de s'investir massivement dans ces domaines-là. Et j'ai l'impression que ce n'est pas aussi clair, et plusieurs l'ont remarqué aujourd'hui, enfin, cette dernière semaine avec cette histoire, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment en train de le remarquer. Ils sont en plus très présents sur le cloud avec S3, dont on a déjà parlé dans cette émission, dont énormément de gens se servent au sein de l'industrie. Donc, bref, Amazon a surveillé, il risque de passer du géant de la distribution par Internet au géant de la distribution de médias dématérialisés, et c'est assez intéressant à constater, quoi.
Bah, c'est logique, ils ont fait une grosse disruption sur le marché du livre. Il y a eu des banqueroutes assez énormes aux États-Unis de ces magasins où tu achetais des livres, Blockbusters, qui est en banqueroute maintenant, où tu allais louer des cassettes et des DVD. Et donc maintenant que Amazon s'est établi, ils veulent pas en fait que la même chose leur arrive, en regardant Apple en fait prendre une position, sachant que Google va également rentrer sur le marché de façon assez agressive. Et donc une des choses que Jeff Bezos a démontré depuis très longtemps, c'est qu'il n'attendait pas que les choses se passent sous son nez, il essaie vraiment d'anticiper, quoi.
Ouais. Et là il joue plutôt bien. Ouais, Lionel?
Non, je suis d'accord, j'acquiesçais, en fait.
D'accord, donc on a le sceau d'approbation de Lionel. Eh bien écoute, ça nous permet de passer donc au sujet suivant. Un autre truc dont on voulait parler, c'était la question de cette union des géants de l'informatique qui en France ont initié une action en justice, en gros contre presque contre l'État français, en tout cas une plainte contre une loi. Je crois qu'elle a été intégrée pas à l'OPSI 2, cette fameuse l'OPSI 2 que j'ai, dont j'ai bon, peut-être pas défendu, mais enfin oui, expliqué, oui, limite défendu certains aspects. Un aspect en tout cas qui m'avait échappé et dont personne ne m'avait vraiment pointé sur cet aspect, alors qu'il est effectivement absolument, d'une part scandaleux, mais surtout, surtout extrêmement dangereux. Je ne suis pas 100% sûr que ça soit l'OPSI, mais en tout cas, il y a une loi qui demande aujourd'hui à tous les acteurs de l'industrie du net en France de conserver un certain nombre d'informations sur leurs utilisateurs pendant un an. Alors, conserver des informations à la limite, pourquoi pas. Le problème, c'est que cette loi exige que ces gens-là gardent également les mots de passe de manière à ce que ces services soient accessibles aux forces de l'ordre si ils en ont besoin. Le problème, c'est que pour pouvoir rendre donner cet accès, il faut que ces opérateurs, alors que ce soit Google, eBay, Dailymotion, etc., il faut qu'ils gardent ce mot de passe en clair. Parce que aujourd'hui, la manière dont les mots de passe sont conservés, c'est qu'ils ne gardent pas vraiment les mots de passe. En gros, même eux, même Dailymotion, eBay, Google, Facebook, par exemple, ne peuvent pas accéder à votre compte, enfin, ne peuvent pas se connecter en tant que vous. Ils peuvent peut-être accéder à vos données, mais ils ne peuvent pas s'identifier en tant que quelqu'un parce qu'ils n'ont pas vraiment le mot de passe. Et cette loi les obligerait à conserver ce mot de passe en clair de manière à ce qu'il soit utilisable par les forces de l'ordre. Le problème, c'est que c'est pour des raisons de sécurité, que d'ailleurs Lionel connaît très bien, pour des raisons de sécurité qu'ils ne le gardent pas en clair. Parce que quand on garde ces informations en clair, ça veut dire qu'on est susceptible de succomber à une attaque s'il y a une fuite ou quelque chose de ce genre-là, une attaque, une intrusion d'un pirate ou Dieu sait quoi. C'est très dangereux parce qu'il peut obtenir cette information. Et donc, eux, ils veulent évidemment pas conserver ces informations sous cette forme. Et donc, ils ont initié une action en justice auprès de... c'est l'ASIC, l'Association des fournisseurs de services... je vais pas dire une bêtise. C'est l'ASIC qui a initié une action en justice. Et pour le coup, moi, je me souviens, à plusieurs reprises, j'ai demandé... Alors, si c'est bien l'OPSI qui a intégré cette partie de la loi, j'ai demandé souvent aux gens pourquoi est-ce que l'OPSI était si dangereux. On m'a pas vraiment donné cet exemple-là, mais... Il est clair que celui-là, c'est quelque chose qui a été fait par des gens qui ne comprennent pas la technologie et qui est évidemment pas une bonne chose. Lionel, tu peux me le confirmer ?
Oui, oui, complètement. Et évidemment, quand on s'inscrit, qu'on s'identifie, quand on crée un compte sur un site quelconque, les identifiants sont stockés quelque part. Le login, le mot de passe, c'est évidemment stocké dans des bases de données. En règle générale, quand le système est bien fait, en effet, le mot de passe est crypté, en fait, et le décryptage est impossible. Donc, c'est vrai que une personne qui récupère les identifiants avec mot de passe crypté, ça va être pour lui, rien n'est jamais vraiment très impossible en informatique, mais ça va être extrêmement complexe de décrypter le mot de passe. Et
c'est pour ça d'ailleurs que les services internet, si vous perdez votre mot de passe, ils vont vous envoyer un mot de passe remis à jour et pas votre mot de passe lui-même, parce qu'ils ne l'ont pas.
Absolument. Alors, c'est très intéressant quelque part. On dérive un petit peu, mais il en reste encore de nombreux des services de ce style. Quand vous demandez la réinitialisation d'un mot de passe et que vous recevez un mail avec votre identifiant en clair, bon, à la limite bien sûr, mais également votre mot de passe en clair, là vous avez tout intérêt à être extrêmement méfiant concernant ce service en question.
Ouais. Et ça m'horripile, et il y en a plein qui le font.
Il y en a toujours beaucoup, hein. Et des grandes sociétés, hein. Grandes sociétés. Bon, j'en cite pas, mais...
Bon, les gens constateront par
eux-mêmes. Ouais. mais c'est insupportable. Ou alors quand vous appelez la hotline, j'ai dû le faire il n'y a pas si longtemps que ça. Un fournisseur d'accès m'a demandé. C'est pas un fournisseur d'accès, pardon. C'est un vendeur de nom de domaine et un hébergeur qui m'a demandé la première lettre de mon mot de passe et la dernière lettre pour bien vérifier que mon mot de passe correspondait avec celui qu'ils avaient sous les yeux. C'est un truc de fou, quoi.
Ouais. Ouais, donc effectivement, c'est pas une pratique très sécure. Et la loi française oblige, enfin c'est le cas maintenant, oblige les fournisseurs de services à mettre en pratique ce genre de pratique. Et entre parenthèses, c'est aussi un problème au niveau européen parce que cette loi n'a pas été visée de la législation européenne, ce qui est évidemment, elle ne serait jamais passée parce que visiblement les gens au niveau européen savent un petit peu plus ce qu'ils font.
Jeff, c'est quoi la pénalité pour les pour les fournisseurs d'accès ou pour Twitter, Facebook s'ils ne sont pas s'ils refusent de faire ça parce que c'est effectivement de la connerie en barre.
Oui.
Donc
je sais pas.
C'est quoi le risque?
Je sais pas, je t'avoue que je sais pas quelle est la pénalité effectivement. Bon, j'imagine que c'est de l'argent mais je sais pas. Mais imaginons par exemple, on se doute bien ce qu'ils ont en tête les législateurs, ils se disent s'il y a quelqu'un qui se livre à des activités terroristes ou on rit toujours les histoires de pédophilie, ce genre de choses. Bon, on peut se dire si jamais il y a des choses comme ça, effectivement il faudrait pouvoir avoir accès aux informations, mais c'est clairement des gens qui n'y comprennent rien. Enfin, j'imagine, Jeff, si demain le gouvernement américain vient dire à une société, une start-up dans la Silicon Valley, vous devez stocker les noms et les mots de passe de vos utilisateurs en clair, enfin, c'est la révolution, quoi.
Ah oui, c'est la révolution.
Bon, bah, écoutez,
sans compter un truc, c'est que tu parlais, tu vois, des attaques, des hackers, etc., l'intrusion. En fait, le hacking le plus répandu dans les entreprises, c'est pas vraiment du hacking, c'est du vol d'informations par les employés eux-mêmes en interne. C'est ça le premier risque des entreprises aujourd'hui. Bien sûr, le piratage, ça existe. On en a des exemples très récents. Mais le vol de par les salariés de l'entreprise, c'est un gros, gros, gros problème. Donc, si on commence à mettre des informations sensibles au sein des bases de données, ça pose problème, ouais.
Gérard, qui est un peu énervé en se faisant virer de chez Facebook, il se trouve qu'il travaille près d'une base de données qui a des mots de passe. Il attrape ça, il le met en BitTorrent quelque part et voilà, ça se balade dans la nature, quoi.
Exactement. Mais tu crois pas si bien dire, hein. Il y a une personne de chez Gucci très récemment qui a été virée. Ça se passe sur une filiale aux États-Unis qui a fait énormément de dommages après son licenciement. Il a créé un compte, en fait, c'est un administrateur. Oui. Donc il a créé un faux compte d'un faux salarié. Donc parmi les centaines de comptes, ça se voyait pas. Il a ouvert des droits d'accès VPN sur ce compte-là et une fois qu'il est sorti de la société, il a utilisé cet utilisateur pour rentrer sur le réseau de l'entreprise et puis faire des dégâts très très importants qui sont estimés, bon pour Gucci c'est une goutte d'eau, hein, mais qui sont estimés quand même à $200,000.
D'accord, oui effectivement. Ouais. Bah, donc prenez garde à Gérard, quoi, en fait, c'est ça le message.
Non, puis il y a eu un cas très récemment aux États-Unis où un fournisseur de mails qui s'appelait Epsilon, qui envoie à peu près 40 milliards d'emails par jour pour différentes banques.
40 milliards par jour? Non.
Ouais.
Par jour, t'es sûr? Ça me paraît beaucoup quand même.
Bah, Facebook envoie 1 milliard par jour, juste eux. Hein, donc,
bon, d'accord, oui, effectivement.
Attends, je vais aller chercher l'info juste pour confirmer. Mais en tout cas, ils se sont fait piquer une liste de juste les emails des clients de leurs clients. Et donc, toutes ces boîtes-là ont dû envoyer une lettre. Et moi, j'ai reçu le mail genre 4 ou 5 fois pour dire bah voilà, on utilisait Epsilon et votre email a été potentiellement compromis. Imagine si à côté de l'email, il y avait le mot de passe.
Oui, c'est sûr. Clair. Oui, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc ils ont eu les pirates ont eu tous ces emails. Donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est envoyer un email à une personne dont ils savent qu'elle est au hasard, disons, à la Société Générale, et ils envoient un email en disant « Ah, monsieur Truc, c'est un email de la Société Générale, nous avons eu un problème, veuillez aller à cette adresse et rentrer votre nom de domaine, enfin votre login et votre mot de passe. » Évidemment, le site est un site factice et ils peuvent, enfin, il y a certaines personnes qui tomberont dans le panneau, évidemment. Donc oui, c'est ce genre de choses est extrêmement dangereuse et le fait qu'il y ait les mots de passe une exigence d'avoir des mots de passe en clair, c'est ridicule. Bon, espérons que.
T'as raison, c'est pas 40 milliards par par jour.
Alors, je me disais aussi, ça fait beaucoup.
Facebook envoie 1 milliard par jour. Hein,
oui, oui, c'est Facebook. Mais non, mais en fait, moi aussi, hein, dans ma cave, j'ai une petite ferme de serveurs qui tourne. Pardon. Donc, je voulais dire, pas du tout, c'est pas. Si vous voulez des petites pilules bleues, non, non. J'enchaîne sans transition sur Google, chez qui Larry Page a pris ses fonctions en tant que président directeur général. Je crois que c'est la traduction officielle de CEO. Et il est arrivé un petit peu en faisant du bruit et j'imagine que ça doit... Enfin, Jeff, tu auras certainement quelque chose à dire sur la manière dont les choses se sont passées parce que c'est un petit peu... Disons qu'on imaginait que Larry Page allait changer des choses, mais il a vraiment changé beaucoup de choses et assez vite, en ce sens qu'il a dégagé une partie des managers de Google. Il a réorganisé les choses en, je crois, 6 unités indépendantes et il a mis à la tête de ces unités des ingénieurs. Bon, c'est pas le petit ingénieur qui sort de l'école hein, non plus, mais des ingénieurs vraiment, pas des managers, pas des exécutifs qui ne comprennent pas les produits, mais des ingénieurs qui sont orientés vers le résultat et le produit, sans doute dans l'espoir de recréer un petit peu la force d'innovation de Google. Et bon, on peut commenter beaucoup là-dessus, mais c'était quand même inattendu qu'ils fassent quelque chose d'aussi, des changements aussi importants, aussi vite surtout. Je me trompe, Jeff ?
Non, je pense que c'est la volonté de Larry, en reprenant les rênes, de changer les choses. Et changer les choses, c'est effectivement faire en sorte que Google soit beaucoup plus compétitif sur tous les autres domaines autres que le moteur de recherche, puisque bon, le moteur de recherche, c'est le numéro un au monde et il conserve en fait une position de leader. Mais sur tous les autres aspects, que ce soit l'entreprise, que ce soit le social, que ce soit les différents projets sur lesquels ils se sont lancés sur les 2 dernières années, qui ont tous fini en flop monstrueux, ouais. Il était clair que la façon dont les choses étaient gérées ne permettait pas à Google de se développer. Et pour être très clair, Google était un espèce de gros paquebot qui n'avançait plus véritablement rapidement sur ses différents challenges. Et je pense que Larry, en reprenant les rênes, a décidé de changer les choses. Et c'est clair que bon, il y a quelques personnes qui sont parties, comme Jonathan Rosenberg, qui était le patron du produit, où en fait Larry a demandé un commitment de plusieurs années encore, et Jonathan avait dit que de toute façon il partirait en 2013. Donc lui, il a juste accéléré son départ. Et c'est clair qu'un des gros perdants, entre guillemets, c'est Marissa Mayer, qui était la patronne de tout ce qui était local et qui n'est plus en fait sur l'organigramme de gens qui reportent directement à Larry. Donc il n'y a pas d'annonce qui a été faite pour son propos. On va voir ce que ça va donner.
Mais elle était en charge de tout ce qui était local, mais avant ça, elle était en charge de la recherche. Donc elle avait déjà pris une sorte de step back, des énormes responsabilités. C'était l'une des personnes les plus importantes chez Google après les deux fondateurs et Eric Schmidt.
C'était la façon dont ça avait été habillé. On ne sait pas si c'est un habillage ou pas. C'est que on avait besoin de quelqu'un pour vraiment pousser l'aspect social et local. Et donc c'est pour ça qu'on avait demandé à Marissa de prendre ça. Mmh. Alors que bon, le moteur de recherche, ça fonctionne. C'est il n'y a pas vraiment de souci, même si Bing en fait a été très très concurrentiel et a vraiment fait des avancées récemment en termes de part de marché. Mais a priori, Marissa, en reprenant Social et Local, prenait du galon en quelque sorte, et elle avait rejoint l'Operating Committee. L'Operating Committee, c'est le groupe en fait qui dirige Google au jour le jour. Et Marissa n'était pas dessus et elle a rejoint.
Ah d'accord. Donc c'était pas une démotion en fait. Enfin oui, c'est un petit peu difficile à dire. C'est une transition en horizontal, mais Ouais, là, c'est voilà, aujourd'hui, c'est une transition,
c'est clairement... c'est, voilà, c'était un passage latéral. Ouais. Et le fait qu'elle rejoignait l'OCI, enfin, l'Operating Committee, a priori, voulait dire qu'elle continuait à avoir beaucoup de poids chez Google. Là, on peut se poser la question.
Ouais. Bon, intéressant, effectivement. Lionel, un truc à ajouter sur la chose ou...
bah, sur le fond, c'est. Alors, moi, ce que je note, c'est que Jeff. Parle de Larry Page en disant Larry, donc ça c'est chapeau bas, c'est toujours très impressionnant. mais sinon, ce qui me surprend,
c'est facile à faire en même temps. Moi, je parle de toi en disant Lionel aussi, tu vois, c'est un peu impressionnant. Donc.
Ouais, mais je pense que c'est pas aussi impressionnant.
Je le connais pas bien.
mais tu vois, il en rajoute en disant je le connais pas bien. C'est, oui, oui. C'est encore, il enfonce le clou.
Autrement, je dirais mon ami Larry.
ce qui me surprend, c'est plus sur le fond, voir Google. En fait, on aurait dit ça il y a 4 ans, 5 ans, que Google aurait quelques difficultés à retrouver une force d'innovation, à retrouver quelque chose de, un dynamisme, une espèce de, d'effervescence qui fait que ça bouillonne d'idées et qu'il y a des choses qui fusent dans tous les sens. Et que parmi ce qui fuse, eh bien, il y a des idées de génie. Et puis, il y a aussi des moins bonnes idées. Cet aspect-là qui fait le cœur de l'entreprise de Google, je pense, est en train de se déliter un peu et c'est assez surprenant.
Mmh. Ouais, c'est sûr. Et c'est une chose que veut, enfin, une situation à laquelle veut remédier Larry Page. Ceci dit, il y a une des conséquences de ce type d'organisation qui, à mon avis, va faire rire certaines personnes qui ne comprendront pas bien comment fonctionnent les choses d'ici quelques mois, c'est que à partir du moment où ces différentes unités ont une indépendance un petit peu plus grande, il va y avoir des moments où certains vont faire des trucs qui vont pas être en accord ou en cohérence avec ce que sont en train de faire d'autres. Et je suis sûr qu'il y a des gens que ça va faire marrer, des gens qui vont dire « Ah ouais, bah regardez, Google, ils sortent tel truc sur YouTube ou sur Picasa et ils ont même pas géré la chose comme il fallait de tel côté sur tel autre produit. Ah ah ah, Google, ils savent pas ce qu'ils font, machin. » Mais bon, c'est qu'une conséquence de cette réorganisation qui pourra sans doute avoir des qualités par ailleurs, quoi. Enfin, à mon sens. Et d'ailleurs, on parlait de local. Oui, dans la chatroom, Maurice Mendy dit startup mode. Oui, exactement. L'idée, c'est d'avoir cette énergie qu'ont les startups qui innovent, mais qui forcément n'ont pas obligatoirement le temps de tout contrôler, de gérer avec tous les acteurs de la même société qui devraient être au courant de tous les projets, quoi. Mais c'est ce qu'il faut sacrifier pour avoir plus de mobilité et d'agilité.
Il y avait déjà chez Google la possibilité pour les ingénieurs de passer 20% de leur temps sur leurs projets favoris. Mmh. Le problème, c'était qu'il n'y avait pas énormément de ces projets qui voyaient le jour. On va voir si ça va changer.
Ouais. Oh bah, à l'origine, il y en a eu plein qui ont donné des choses très intéressantes, dont Gmail, complètement au hasard. Mais c'est vrai que récemment, il n'y avait plus grand chose, quoi.
Gmail c'était du temps, excuse-moi, mais Gmail c'était encore du temps où Google c'était 2000 personnes et il y avait la possibilité de faire des choses.
Oui, bien sûr, tout à fait. Oui. Et donc on parlait de social et donc Google a lancé son service dont on avait entendu de nombreuses rumeurs pendant longtemps, son service, enfin en tout cas le début de son service social, enfin de son add-on social qu'ils ont appelé le bouton plus 1. Ou le plus 1, qui en fait, je vais vous la faire courte, c'est un petit peu comme le bouton like chez Facebook, sauf que ça apparaît sur les résultats de recherche, et si c'est un résultat de recherche que vous appréciez, vous pouvez cliquer le plus 1, et ça indiquera à vos amis sur Google, parce que vous savez que Google a également un système de réseau social, que ça soit par buzz ou par d'autres moyens, vos contacts par exemple dans Gmail, eh bien, vos amis, vos contacts pourront savoir que vous avez recommandé ce lien en quelque sorte. Pour le moment, ça ne va apparaître, ça n'est que sur la version anglaise et ça ne va apparaître que dans les résultats de recherche de vos amis. Mais il y a fort à parier que, à terme, ça sera intégré au fameux algorithme, le sacro-saint algorithme de Google, dans une certaine mesure pour essayer d'améliorer leurs résultats de recherche parce qu'on se rend compte partout que le simple algorithme automatique ne suffit plus. Et d'ailleurs, certains chez Google ont commencé à faire un petit peu, à préparer le terrain en disant « Oui, mais bon, même l'algorithme, en fait, c'est des gens qui l'écrivent, donc il y a déjà une impulsion humaine dans l'algorithme, donc en fait, c'est pas très grave si on rajoute un petit peu plus, machin. » Donc, on le sent venir. Et lié à cette nouvelle, c'est le fait que Larry Page, dont on a parlé à l'instant, a associé, je crois que c'est 20% du bonus des employés de toute la société, l'ensemble de la société, aux performances de Google dans le domaine du social. C'est dire à quel point il pense que ce domaine est important, et donc il motive la société entière, même ceux qui travaillent, qui n'ont aucun rapport avec ce domaine d'activité de Google, genre le type qui est en bas dans les serveurs en train de brancher des câbles, si le Google ne fonctionne pas bien au niveau de ses performances dans les réseaux sociaux et dans les initiatives sociales de Google, ben son bonus sera impacté. C'est un signal hyper fort quand même, hein, comme décision.
Ouais, ça a un peu concerné, je pense, en interne, parce qu'il y a beaucoup de gens dans les 20 000 ou je sais pas combien employés de Google qui n'ont pas vraiment grand-chose à faire avec le social. Et donc, typiquement, quand tu donnes plus à quelqu'un, tu essaies de faire en sorte qu'il puisse avoir un impact positif sur le résultat. Et là, c'est pas évident. Je pense que le problème, c'est que Google n'a pas la fibre sociale, ils ne comprennent pas vraiment le social, et les produits qu'ils ont sortis au cours des années n'étaient pas vraiment n'ont pas eu beaucoup de succès.
C'est le moins qu'on puisse dire.
C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, je ne sais pas trop, en gros, comment ça va se... Quel va être l'impact, en fait, sur le jour des Googlers suite à cet édit, quoi.
Ouais. Mais c'est sûr que s'il y a un moyen de motiver les gens, enfin je sais pas, les Googlers en l'occurrence, ils auront peut-être un petit peu plus envie de parler des efforts sociaux de Google à leurs amis, à leur famille, sur Twitter, Facebook, machin. Ça, ouais. Ça motive, quoi. T'as pas l'air convaincu, Lionel.
Pas trop. C'est vrai que c'est ce que la direction a amené comme argument, c'est-à-dire que chaque Googler, de toute façon, son rôle aussi, c'est de faire la promotion des outils de l'entreprise à l'extérieur de l'entreprise. Donc, de ce point de vue, les salariés sont motivés également, quel que soit le produit.
J'aime bien comment il dit ça. Ils sont motivés. Tu vas le chercher loin. Le motiver quand même.
Oui, parce que je ne suis pas du tout convaincu par l'argument, mais, ouais. Mais bon, pourquoi pas. C'est vrai que ça démontre, comme tu le disais, une véritable motivation pour le coup de la direction à rentrer sur ce marché qui est un marché qui est encore fermé à Google. Cela dit, le système est quand même pas bête. Le plus 1 en lui-même, c'est pas bête.
Oh bah c'est un bouton like, hein. Il y a plein de gens qui le font. Je veux dire, c'est digue, ça a 6 ans cette histoire.
Ouais, mais est-ce qu'ils vont l'intégrer aux publicités ou pas ?
C'est possible, tout est envisageable. Hein.
Donc, tu vois, là, ça offre une dimension qui est peut-être intéressante.
Ouais. Oui, il y a des choses. Alors, en tout cas, il est certain que le plus 1 ne va pas en rester là, oui, ça c'est sûr. Voilà. À propos de publicité et d'extension, il y a une initiative très intéressante, à vrai dire deux initiatives très intéressantes, chez YouTube, et là on parle toujours de Google, puisque YouTube, bien sûr, vous le savez, appartient à Google. D'ailleurs, sur le dernier épisode, il y a des gens qui étaient très contents de nous entendre parler d'autres choses que Facebook et Google, et j'avais dit, bah oui, c'est très bien, mais c'est l'actualité, on la fait pas. Bah là, c'est la moitié sur Google, hein, j'y peux rien, c'est eux qui sont au centre des infos. Mais c'est quand même des choses nouvelles et intéressantes, et notamment les initiatives de YouTube. La première étant qu'ils sont en train de réorganiser entièrement YouTube en différents channels, en différents canaux, un petit peu comme les chaînes, quoi. Les chaînes de... Oui, j'ai dit canaux, c'est la traduction littérale, mais c'est les chaînes. Comme les chaînes de télé, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une vingtaine, je crois, de chaînes qui vont diffuser des choses un petit peu en live sans que vous n'ayez à choisir chaque vidéo. Donc on peut imaginer par exemple une chaîne clip où il y aura plein de clips qui passent en boucle ou alors une chaîne, ce que je sais moi, émission sur l'actu tech. Où il y aurait des chaînes comme, je ne sais pas moi, des chaînes de Revision Free ou de Tweet ou un jour peut-être de No Watch, hein, imaginons. Donc ça, c'est un des aspects qui est assez intéressant. L'autre aspect, enfin le deuxième sur trois, c'est qu'ils vont financer 100 millions de dollars de programmes originaux. Et là, on rejoint un petit peu ce qu'on disait sur Netflix il y a quelque temps, et le fait que certains gros acteurs de la diffusion sur Internet sont un peu en train de se diriger, peut-être en partie lassés par la lenteur des ayants droit dans les médias traditionnels, sont en train de se diriger vers de la production qu'ils mettraient en place eux-mêmes. Et on sait que YouTube avait racheté Next New Networks il y a quelque temps, qui était un producteur de médias sur Internet. Ben là, ils vont financer 100 millions de dollars de programmes, ce qui est vraiment pas rien. Et enfin, troisième pièce du puzzle, YouTube a enfin lancé, pour certains partenaires privilégiés aux États-Unis, les outils de diffusion live, un petit peu comme YouTube pour ceux qui sont dans la chat, pardon, comme Ustream pour ceux qui sont dans la chatroom. Vous voyez bien ce que c'est, hein, Ustream, ça diffuse en live pendant qu'on est en train de faire quelque chose. Bah là, YouTube est en train de se lancer là-dedans. Ils avaient fait des essais avec des concerts, certains événements spécifiques retransmis en direct. Mais là, les partenaires privilégiés de YouTube peuvent faire ce genre de choses aussi. On se doute qu'ils ne veulent pas le rendre accessible à n'importe qui, parce qu'ils ne veulent pas non plus le phénomène chatroulette où n'importe qui va se mettre à diffuser soit du contenu qui n'est pas forcément du meilleur goût, soit des trucs illégaux. On pourrait imaginer qu'en direct, quelqu'un pourrait diffuser, Dieu sait quoi, des films, des séries, ce genre de choses. Ça fait beaucoup de choses quand même à digérer.
Du sport, il y a eu un gros problème pour Justin TV, qui est un autre acteur dans le domaine du live, où en fait, il y a eu depuis très longtemps du cricket qui a été piraté en ligne sur leur canaux, et c'était un gros problème pour eux. Et malheureusement, c'est quand même la source pour Justin d'une grosse partie de leur trafic. Et donc, quand ils essaient d'éviter ça, ça les coupe eux-mêmes d'une partie de leurs revenus, quoi.
Oui, c'est sûr. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le cricket est très populaire. Il y a beaucoup d'Anglais qui aiment ça et des anciennes colonies anglaises. J'ai un camarade au bureau qui est anglais et il lui arrive quand il y a des championnats de cricket, il est complètement fou. Hein. Et les matchs, ça dure 3 jours. Enfin, bref, bon, c'est le cricket, c'est pas forcément le sujet. oui, donc c'est effectivement quelque chose d'assez massif pour Google. C'est YouTube, c'est un petit peu un paquebot aussi, mais ils sont en train de prendre une direction à leur niveau qui est un niveau de mastodonte qui est quand même assez agressif, je trouve. En quelques semaines, il s'est passé beaucoup de choses là. C'est la guerre qui commence.
Et tu vois, Patrick, j'ai eu cette réflexion en vous écoutant, en fait. Je ne te vois pas, Patrick, hein, c'est toi et tes collaborateurs.
il vous en prie, continuez, flattez-moi.
Et en écoutant le rendez-vous tech de le dernier, je me suis dit, mais à quand les télécommandes? On va voir, tu vois, on va voir la chaîne 1, 2, 3, 4, YouTube 5, 6, 7. Il est possible qu'on arrive à ce genre de choses maintenant.
Certain, c'est même pas possible, ça va arriver.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Voilà, donc et en effet, les grandes chaînes nationales traditionnelles sont en train de, vraisemblablement de rater un truc là.
Bah oui, exactement comme la musique, enfin l'industrie de la musique qui a donné son business à Apple en grande partie. Ouais. Et le bouton à côté de YouTube, ça sera le bouton No Watch, sauf que pour les vidéos, ça va.
Mais non, genre, mais ça éteint la télé, ça.
Non, mais si, il y aura ça aussi, sauf que Lionel, pour toi, pour des gens comme toi et moi qui faisons des podcasts audio, en fait, il y aura juste nos têtes, tu sais, en gros, en zoom, qui sourit, un grand sourire. Bon, histoire suivante, c'est un truc qui est un petit peu sorti de nulle part. Une annonce de Facebook qui a tenu une conférence il y a quelques jours à peine pour annoncer donc son projet Open Compute. Alors, Open Compute, c'est un truc qui était, comme je le disais, inattendu et surprenant. Ce qu'ils ont fait, c'est que, comme vous le savez certainement, Facebook est l'une des sociétés qui a besoin du plus grand nombre de serveurs au monde. Ils ont des fermes entières de serveurs et l'une de leurs priorités était de diminuer la consommation et d'augmenter l'efficacité des serveurs. Donc ils ont constitué une équipe qui a travaillé pendant environ un an et demi au redesign en fait de leur rack de serveurs. Les serveurs, c'est pas compliqué, hein. C'est des grandes armoires où on encastre des sortes de plaques d'une dizaine de centimètres d'épaisseur qui sont en fait des ordinateurs avec un ou plusieurs processeurs, de la mémoire, une alimentation. Et vous collez tout ça dans l'armoire, vous en mettez 20 ou 40 dans chaque armoire et vous avez des pièces entières remplies d'armoires comme ça. Et c'est comme ça que Facebook, Twitter, Apple et d'autres gèrent toutes les données qui transitent par eux, que ce soit l'affichage de des pages que vous allez consulter ou l'envoi de messages aux autres utilisateurs, le chat, etc. Tout ça fonctionne comme ça. Et donc, ils ont redesigner entièrement ces éléments et ils ont donc annoncé il y a quelques jours la mise en open source en fait, en architecture ouverte, en collaboration de ce design. Alors l'open source, on le connaît bien pour ce qui est du logiciel, on va parler de Linux dans quelques minutes et on en reparlera, mais on le connaît bien dans ce qui est du domaine du logiciel, mais dans le matériel c'est un petit peu moins utilisé. Et Facebook a initié ce projet en espérant que beaucoup de gens y participent, améliorent encore leur design, donnent des informations sur ce qu'ils pensent que Facebook a bien fait ou mal fait, et qu'ils puissent donc ensemble, que toute l'industrie puissent travailler et avancer pour concevoir de meilleurs centres de traitement de données. Et c'est extrêmement important parce que c'est un des postes de dépenses les plus importants des sociétés d'informatique parce que ça consomme énormément d'électricité et il y a beaucoup de dépenses là-dessus. C'est surprenant de la part de Facebook. C'est quelque chose qui est un effet d'annonce pour dire nous on est open et ça sert à rien, ou c'est une vraie avancée, c'est quelque chose de vraiment intéressant pour l'industrie selon vous?
Je pense que c'est fondamental puisque, comme tu le disais, un des problèmes que Google, Microsoft et Facebook ont, c'est la consommation d'énergie. Faut pas sous-estimer l'importance. Hein. Maintenant, c'est l'équivalent de centrales nucléaires entières qui tournent juste pour pour équiper en fait ces data centres. Et aujourd'hui, quand Google va en fait avoir des data centres portables qui vont aller aux différents endroits des États-Unis, là où l'électricité est moins chère, parce que c'est une façon pour eux d'optimiser ce coût, on voit le potentiel d'implication. Ce que Facebook a fait ici, c'est une innovation autour de tout ce qui est refroidissement en fait. Donc la façon dont leur nouveau centre fonctionne, c'est qu'ils sont beaucoup plus économes sur la façon dont ils vont refroidir les machines.
Ouais.
Et je pense que le fait que...
Qui dit refroidissement dit moins de consommation, donc c'est...
Oui, c'est-à-dire que moins ça chauffe, moins ça a besoin de refroidir, moins tu consommes. Et je pense qu'il y a effectivement un aspect économie d'argent, économie d'énergie, mais aussi le fait qu'il y ait une volonté relativement green, donc verte, des dirigeants de Facebook. Et étant donné que c'est un problème fondamental de l'industrie, c'est très intelligent de leur part de le mettre dans l'open source, parce que ça veut dire que, un, il y aura ces avancées pourront bénéficier à d'autres acteurs, et deux, il y aura aussi un travail de la communauté qui bénéficiera ensuite à Facebook. Donc je pense que c'est vraiment positif.
Et entre parenthèses, c'est souvent dans ces industries, en particulier au sein de la Silicon Valley, les gens, c'est pas tout le monde qui va participer à ces projets, c'est des gens qui sont quand même dans des domaines assez particuliers, et les gens dans cette industrie se parlent souvent. Et on sait que les gens de Digg, par exemple, qui doivent gérer à l'époque, ils avaient des bases de données extrêmement complexes pour envoyer toutes les informations à tout le monde, parlaient beaucoup aux gens de Twitter, quand Twitter a commencé à monter ses infrastructures, comment ils avaient géré les bases de données, etc. Et tout le monde se parle, et véritablement, c'est pas pour rien que la Silicon Valley est aussi prolifique, véritablement, ça a des conséquences bénéfiques pour tout le monde, quand il y a autant de communication et autant de partage de savoir et d'informations. Donc,
L'idée en plus est intéressante, enfin, c'est vraiment intelligent. Le concept Open Compute, moi ça me plaît beaucoup sur l'idée de reprendre le mécanisme de l'open source et de
communiste
de l'appliquer au hardware, quoi.
Ouais.
Et en plus, c'est un peu Jeff, tu disais que ça concerne le refroidissement, oui, mais pas seulement ça concerne aussi le ce qu'on appelle le power unit effectiveness, l'efficacité dans l'utilisation de l'énergie qui est utilisée par les serveurs. Parce que quand on utilise de l'électricité dans n'importe quel domaine, il y a beaucoup de pertes de l'électricité qui s'échappe, qui finalement n'est pas utilisée pour ce pourquoi elle est produite. Et là, on arrive à un taux d'efficience et d'efficacité assez élevé. Et donc ça, c'est intéressant, et ça fait écho à des critiques de Greenpeace aussi, qui ont été faites contre Facebook au moment de la sortie du film de Social Network, parce que c'est à ce moment-là où, il me semble, Facebook avait décidé d'ouvrir son nouveau data center, parce qu'on parle du data center de Prineville. Et Prineville, c'est une petite ville un peu sinistrée, et en fait qui alimente sa ville et ses infrastructures industrielles en électricité, mais qui est
avec des patates.
Non, alors des patates bien grillées, parce que c'est du charbon, en fait.
D'accord, ok.
Mais bon, évidemment, les centrales à charbon ont un taux de pollution, je ne peux pas dire supérieur, mais en tout cas différent que les centrales nucléaires. Ou encore pire, ou encore mieux, les centrales éoliennes, etc. Et Greenpeace avait vraiment critiqué Facebook d'avoir choisi ce lieu-là, puisque leur data center allait être vraiment très consommateur de ce genre de centrale. Et ils avaient répondu à l'époque qu'ils feraient tout leur possible pour réduire la consommation d'énergie. Et ça a donné ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Donc c'est pas mal. Hein. C'est vraiment.
Mais alors. Ok, mais bon, là on est dans le pays des bisounours, ils sont gentils, tout le monde va travailler ensemble, consommer moins d'énergie, sauver la planète et tout. C'est pas, donc Facebook c'est des gentils en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas un petit peu un coup marketing, un coup genre c'est les PR qui sont arrivés qui ont dit ouais on va faire ça, on va avoir l'air gentil, mais en fait derrière on va vendre vos informations aux Chinois. Entre parenthèses, ils sont effectivement, c'est marrant que je dise ça, j'y avais pas pensé, ils sont effectivement en train de travailler avec Baidu qui est le premier moteur de recherche en Chine pour créer un nouveau moteur réseau social spécifiquement en Chine. Donc ils sont quand même, c'est pas des gentils. Facebook, c'est des méchants, non? Je peux continuer à penser que c'est des méchants? Ou maintenant ils sont gentils?
ça dépend.
Écoute, j'ai pas eu la chance de voir mon copain Jonathan, Jonathan Aliger, qui est le patron des Ops chez Facebook.
T'avais dit c'est mon ami Jonathan.
depuis un bout de temps, mais fondamentalement c'est un tel critère de coût pour eux d'essayer de diminuer, l'impact opérationnel de diminuer leur coût d'énergie, leur efficacité, etc., c'est énorme.
Ouais.
Et donc, On peut pas dire Facebook aura une meilleure position face à Google ou face à Apple s'ils réduisent leur coût d'énergie. Non, c'est l'avantage de toute l'industrie. Et ouais. En plus, fondamentalement, je pense que s'ils peuvent bénéficier à l'environnement en diminuant leur impact énergétique, c'est quelque chose qu'ils feront. Donc, je pense pas qu'ils aient. Bon, évidemment, il y a un côté toujours PR positive, mais je pense pas que ce soit du tout la motivation principale de cette annonce.
Oui, et puis je crois que souvent on a tendance à penser enfin comme pour les gens, hein, il y a des gens qui ont tendance à se dire telle personne ou telle société, c'est des gentils, ceux-là c'est des méchants, ou voilà, telle personne, il est comme ça et tu le définis avec une seule caractéristique. Et évidemment, ces sociétés comme des personnes ou comme, enfin, c'est toujours pareil. Il y a des bons côtés, des mauvais côtés, des côtés des choses qui vont faire uniquement pour des questions de rentabilité, des choses qui vont, ils vont se dire, bah, si on peut faire les choses comme ça et que ça correspond à une volonté, une certaine ligne directrice morale pour nous. On en avait beaucoup parlé à propos de Google quand ils ont quitté la Chine. Pourquoi pas ? Donc oui, il n'y a pas de raison. Enfin, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas que c'est pas une société qui est là pour faire de l'argent aussi, mais il n'y a pas de raison qu'ils puissent pas faire une bonne chose par ailleurs. Donc
ouais. De toute façon, on a tous un côté evil. Hein?
Oui, complètement. Donc, surtout certains que je ne citerai pas, mais que je connais bien.
Patrick, evil ? Mais non.
bon. Et des personnes, juste pour finir, des personnes qui s'amusent, enfin qui s'amusent, le mot est peut-être un peu fort, mais qui s'amusent à ouvrir un serveur et à se dire, bon, la carcasse de serveur, on n'en veut pas, on va la refaire, on va mettre une carte mère Intel et puis on va redesigner la carcasse de façon à ce que ce soit plus efficace, etc. Ça peut pas être complètement mauvais, quoi. C'est ouais. Parce que qui a l'idée de faire ça, franchement? Qui a l'idée aujourd'hui d'acheter un serveur, de l'ouvrir et de se dire, bon, je vais prendre les pièces et les machins, mais je vais les réajuster à ma façon? C'est génial, ça.
C'est quelque chose que Google a fait ça depuis ses débuts. Hein. Je me rappelle
les
premières fois qu'ils ont commencé à parler un peu de leur infrastructure aux alentours de 99 ou 2000. Je me rappelle cette image de Google avec des serveurs qui tenaient avec du Chatterton. et vous avez en fait pris l'ensemble des composants et vraiment rajouté énormément de mémoire de manière à avoir quelque chose de complètement custom en fonction de leurs besoins.
Ouais. Ben on l'a compris, ça a une importance vraiment grande pour l'industrie, et on a aussi compris que ça fait chavirer le petit cœur de geek de Lionel. Un autre truc qui pourra peut-être faire chavirer votre petit cœur de geek, si vous avez un portefeuille un petit peu épais, c'est les imprimantes 3D. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais il y a quelque chose de très très intéressant qui s'est passé la semaine dernière, qui ouvre toute une nouvelle catégorie de maux de tête légaux et conceptuels pour la propriété intellectuelle. En fait, il existe depuis un certain temps des imprimantes 3D, ce qu'on appelle les imprimantes 3D, notamment le MakerBot que n'importe qui peut acheter pour environ 1000 ou 1500 dollars et construire chez lui, ça se vend en kit. Et en fait, c'est des imprimantes, là on utilise les guillemets, qui vont fabriquer un modèle en 3D à partir d'un modèle 3D sur votre ordinateur. C'est-à-dire que la manière dont ça fonctionne, c'est que ça imprime des couches l'une au-dessus des autres en fonction du guide que vous allez lui fournir, et à la fin, vous avez un vrai objet en 3D qui, en fonction de l'imprimante, en fonction de son prix, bien sûr, ça va jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de dollars, voire plus, va être plus ou moins grossier ou plus ou moins fin. Et ça peut devenir quand même assez fin, ça peut créer des modèles enfin ça peut créer des objets pour les modèles haut de gamme avec de l'acier trempé, avec du verre, avec du vrai plastique. Enfin, le plastique des modèles bas de gamme, c'est pas du plastique qui va se déformer, c'est du plastique genre le plastique des Lego, quoi. Donc c'est un petit peu solide. Donc ça, c'est le principe de ces machines qui était vraiment un truc de hobbyiste, un petit peu en underground jusqu'à maintenant. Mais en fait, il y a un type qui a créé un modèle 3D destiné à ces imprimantes, du triangle, je ne sais plus comment il s'appelle ce triangle paradoxal là. Aidez-moi. Le triangle de Penrose, voilà. Qui est une sorte d'illusion d'optique, mais il y a un type qui a compris comment le faire en vrai. Et il a créé un modèle en 3D de ce triangle et il a donné la licence à une société qui les imprimait à la commande pour $70 et qui les envoyait. Très bien, jusque-là, pas de problème. Eh bien, une personne a regardé cet objet, enfin des photos, et il a compris comment le truc se faisait. Il a recréé un autre modèle en 3D et il a mis en partage sur un site de partage de modèles 3D qui s'appelle Thingiverse, qui partage ces modèles 3D librement. Alors, je ne sais pas si vous m'avez suivi jusqu'ici, mais ce que ça veut dire, c'est que n'importe qui pouvait télécharger ce modèle d'un objet physique et l'imprimer lui-même chez lui. Donc, concrètement, l'article de Ars Technica, qui est très bien fait, fait un parallèle assez frappant avec Napster, qui avait dématérialisé vraiment la musique. Là, c'est une sorte de semi-dématérialisation des objets physiques. C'est-à-dire que, imaginons par exemple, c'est l'exemple qu'il donne sur l'article, que vous ayez une pièce dans une machine à laver que vous avez à remplacer. Si vous allez chez Brandt pour acheter la pièce en question, ils vont vous la facturer 25 euros. Si vous téléchargez le modèle de la pièce et que vous l'imprimez vous-même, ça va vous coûter 2 euros. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez effectivement télécharger illégalement la pièce, le boulon à forme un petit peu bizarre dont vous avez besoin. C'est un truc qui a des conséquences sur l'industrie. Enfin, aujourd'hui, bien sûr, ces imprimantes coûtent très cher et ne sont pas super précises. Mais à l'avenir, d'ici, on ne sait pas, 10-15 ans, ça peut avoir des conséquences sur l'industrie en général, monumentales. Imaginons par exemple un set, je vais dire un truc qui va peut-être paraître ridicule à certains de nos auditeurs geeks, mais demandez à vos femmes, vous allez voir si ça ne va pas leur plaire, un set de services à thé, hyper design de chez Bodum par exemple. Eh ben, au lieu d'aller le payer 125 euros chez Bodum, vous le téléchargez, ça vous imprime le truc en plastique et en verre pour 10 euros. C'est quelque chose de... Enfin, bon, je m'arrête là pour prendre vos impressions. Pour moi, ça me paraît être un truc révolutionnaire. Est-ce que je m'emballe ?
Non, tu as raison. Je pense que pour le prototypage, il y a énormément d'applications de cette technologie et on n'est qu'au tout début de l'imprimante 3D. Et un jour, dans des années, ton imprimante à la maison, ce serait une imprimante 3D.
Et donc, ça veut dire que si... Enfin, c'est marrant, il y a des objets, on voit des objets que les gens impriment. On peut vraiment faire un peu de tout, quoi. C'est... Enfin bon, Lionel, je veux pas te voler là.
Oui.
Donc, t'as pas l'air convaincu. Vas-y, rentre-moi dans le lard, dis-moi pourquoi j'ai tort.
Si, il y a une chose qui m'intéresse dans ton exemple, c'est l'histoire de Brandt, tu vois, parce que si tu vas avec une
pièce... Non, c'est important, parlons de Brandt.
Parlons de Brandt, mais non, mais tu vas chez Brandt, si tant est que tu puisses y aller, avec ta pièce défectueuse, monsieur Brandt, il va te dire, monsieur, faut changer de machine à laver. Je ne peux pas vous vendre la pièce comme ça, machin, elle ne se fait plus bidule. Donc, tu vois le discours traditionnel, quoi.
Ouais.
Et là, c'est intéressant parce que tu vas pouvoir te faire faire. Bon, après, il faut qu'elle soit solide et qu'elle soit utilisable, etc. Hein, donc, mais tu vas pouvoir te faire ta petite pièce toi-même tout seul et puis faire en sorte que ta machine à laver, au lieu de durer 6 ans, eh bien, elle en dure 8, par exemple.
Ouais.
Donc, voilà. Dans le prototypage, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Je pense que les personnes qui ont des idées, qui veulent matérialiser leurs idées, faire des tests, etc. Parce que le papier ne permet pas tout, et puis faire des prototypes, c'est coûteux. Eh bien, là, ça offre des possibilités qui sont intéressantes. En revanche, pour l'instant, tu vois, l'histoire de Brandt, on n'y est pas du tout, quoi.
Oui, c'est sûr.
Il faut que l'imprimante soit robuste, que le matériel utilisé soit de différentes qualités, que du plastique.
Mais on n'est pas si loin. Hein. Tu sais, il y a beaucoup de gens, effectivement, beaucoup de gens disent ça quand on leur parle de cette histoire. Mais on n'est pas si loin qu'on le pense. Aujourd'hui, les machines qui peuvent faire des trucs vraiment de ce type-là coûtent très cher, genre 60 000 $. Mais elles peuvent faire. Enfin, renseignez-vous, allez voir ce genre de choses. choses, il y a des résultats vraiment, vraiment surprenants. JIB72 dans la chatroom, GLB92 dit « Et une pizza, on peut l'imprimer ?» Ça, ça serait pas mal, franchement. Mais sans aller jusque-là, imaginez par exemple un stand pour votre iPad ou votre iPhone que vous avez vu sur un site et vous dites « Ah ouais, ça c'est pas mal, ça a l'air sympa. » Eh bien, vous allez sur le site de partage de Design 3D, vous pouvez vous l'imprimer tout de suite. C'est fou comme, comme idée. Ou alors, je sais pas moi, une figurine d'un personnage que vous aimez bien, ou un... Enfin, il y a des... C'est le genre de concept qui va beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. C'est le genre de truc qu'on se dit, on sait pas ce que ça peut donner. C'est tellement... ça ouvre tellement de possibilités. Enfin, moi, ça me fascine, mais je suis peut-être...
Moi, j'aime bien ton enthousiasme, en tout cas, Patrick, parce que tu vois, j'ai pas tout à fait le même. Je sens que, tu vois, en n'ayant pas ton enthousiasme, ça m'énerve parce que je sens que je passe à côté de quelque chose.
Je t'assure. Sois un petit peu moins prudent dans tes processus intellectuels. Laisse-toi aller à la folie, tu vas voir, c'est super bien. Bon.
Juste un point sur l'impression de la pizza. Il y a des cuisiniers qui font pas mal d'expérimentations avec du réassemblage de
mets,
et je crois qu'ils ont fait en fait cette une impression comme ça, ils ont imprimé un plat. Je sais plus ce que c'était, mais ils l'ont fait. C'est des gens qui travaillent beaucoup avec de l'oxygène, du nitrogène liquide, des choses comme ça.
Oula, du nitrogène liquide qui te fait un plat. Remarque, c'est peut-être un plat de nitrogène liquide en même temps. C'est peut-être pas mal.
Ça veut dire qu'après, tu peux découper de façon plus fine, etc. Ah. Si je me rappelle bien, c'est une présentation qui a eu lieu à TED. J'essaierai de la retrouver.
Ah, d'accord. Oui, OK. Si on la retrouve, on la mettra dans les notes de l'émission. Si on ne la retrouve pas et que vous la connaissez, vous pouvez nous la laisser dans les commentaires. Ça sera sympa. Et GLB92 nous dit « Patrick va pouvoir imprimer un vrai filtre anti-pop. » Non, j'aime bien mon filtre anti-pop. Je le garderai. Mais vous savez pourquoi d'autres je suis hyper enthousiaste ?
Alors pourquoi donc ?
Eh bien pour notre sponsor, bien sûr.
Ah, oui, et bien entendu.
Quelle transition ! Notre sponsor, c'est, vous le savez, Numéricable. Numéricable, fournisseur d'accès Internet et de télévision par câble, extrêmement connu, évidemment, qui nous parle aujourd'hui de son réseau. Puisque vous savez que chez un fournisseur d'accès Internet, une des choses les plus importantes, c'est la qualité du réseau. Parce que vous regardiez la télé ou que vous jouiez ou que vous téléchargiez des podcasts, si vous n'avez pas un bon réseau, ça marchera moins bien. Et en l'occurrence, Numéricable est en train d'adopter sur tout le territoire la norme DOCSIS 3, qui est une norme beaucoup plus, qui permet plus de confort, notamment pour ceux qui ont les forfaits 100 mégas. Et donc, ils sont en train de l'adopter pour s'assurer que les augmentations de charges sur leur réseau, surtout dans les périodes de connexion de masse, et vous le connaissez bien avec les podcasts de NoWatch, les débits ne descendent pas. En l'occurrence, ils ont déjà fini de mettre à jour leur réseau sur les villes de Lille, Marseille et Paris. Et ils sont en train de mettre à jour l'ensemble du territoire, toutes les grandes villes, Lyon, Nantes, Grenoble, etc. Je ne vais pas toutes les faire, mais vous le savez, vous m'avez suffisamment entendu les lire, il y en a beaucoup, et ça va continuer tout au long de l'année 2011, donc vous pouvez aller voir sur le site de Numéricable si votre ville est déjà raccordée, et si elle est raccordée au câble, évidemment. Si vous voulez voir si vous avez la possibilité d'avoir un accès en 100 mégas avec Numéricable, vous pouvez aller soit sur leur site, soit encore mieux, passer par notre site à nous, nowatch.net, et cliquer sur la bannière Numéricable que vous verrez juste en bas du carrousel. Et donc, vous pourrez en apprendre plus sur Numéricable, sur les possibilités de raccordement. Et en plus, vous passerez par chez nous. Donc, ils sauront qu'on vous envoie et ça nous aidera un petit peu plus encore. Donc, merci à eux. Merci à vous d'aller les voir. Et c'est la fin de notre message publicitaire. On va donc passer, vous le savez, après le message publicitaire, à notre série de petites infos un petit peu plus rapides, qui ne nécessitent pas forcément une grande discussion hyper longue. Et Je pense que j'aurais été insulté et attrapé à la sortie de chez moi par les fans de l'open source et de Linux si je n'avais pas mentionné le fait que c'est le 20e anniversaire de Linux cette année. Je disais qu'on allait parler d'open source et je disais qu'on n'allait pas discuter très longtemps des sujets que j'allais évoquer maintenant. Ce n'est pas forcément le cas parce que Linux, c'est quelque chose d'assez intéressant. Parce que je me suis rendu compte, peut-être que tout le monde le savait, je le savais aussi, mais j'avais pas vraiment réalisé la popularité de Linux. Alors je me souviens plus de qui c'était une personne assez haut placée chez Linux qui a dit, en gros, Microsoft aujourd'hui, on n'est plus vraiment en train de se battre contre eux, et puis on va pas non plus faire la comparaison tout le temps parce que c'est un peu comme donner des coups de pied à un chiot, quoi. Ça devient un petit peu ridicule parce qu'il dit Linux a déjà gagné la bataille contre Microsoft. Et évidemment, tout le monde, moi y compris, quand on pense à Microsoft, on pense à Windows et l'hégémonie qu'ils ont sur les ordinateurs de bureau. Mais ce à quoi on ne pense pas forcément, c'est que Linux est présent sur l'immense majorité des serveurs de toutes les sociétés du monde et sur tous les systèmes embarqués, genre les voitures, les appareils du quotidien qui travaillent avec des systèmes informatiques un peu complexes. Généralement, c'est Linux. Android, évidemment, c'est Linux. Enfin, Linux est absolument partout. Et Microsoft est en très sérieuse difficulté sur tous ces domaines, outre le domaine de l'ordinateur de bureau. Donc, c'est une vision intéressante de Linux à laquelle on ne pense pas forcément, quoi. Et c'est le 20e anniversaire, c'est un bon moment pour le rappeler. Oui ? Non ?
Exactement.
Ouais, je m'en rappelle quand IBM avait ces campagnes de dénigrement à propos de Linux lorsqu'ils étaient encore en train de pousser AX dans les années 95-98.
Ouais.
Et effectivement, aujourd'hui, Linux, c'est complètement établi, il n'y a même pas de question, quoi.
Oui, la question ne se pose pas du tout. Et alors, pour ceux qui ne savent pas, Linux a été créé par un jeune homme qui s'appelle Linus Torvald, un jeune Finlandais, il y a une vidéo très intéressante sur le qui a circulé, avec les dates de Linux et une petite histoire rapide. Donc, c'était en 91, effectivement, puisque ça fait 20 ans. Il a envoyé un petit message sur un forum en disant « Ouais, je vais créer un petit truc genre Unix, si vous voulez m'aider, bon, ça ira pas très loin, mais essayons de faire un truc ensemble. » Il l'a mis en open source en 92, et évidemment, c'est devenu ce qu'on connaît, mais c'est vraiment un mec qui a commencé ça presque dans sa chambre. Et est-ce que vous savez pourquoi le symbole de Linux est un pingouin ?
Non.
Non. Bah en fait, Linus a été dans un il avait été visiter un aquarium et il s'est fait mordre par un pingouin en 96. C'est fort, hein ? C'est pas mal. Je trouve ça bien.
J'ai appris quelque chose aujourd'hui.
Ben voilà, tu vois, on quittera le rendez-vous tech moins bête qu'on y est arrivé tous. Autre chose intéressante.
Je pense qu'on peut l'appeler l'épisode du pingouin.
C'est possible, le pingouin qui mord. Une autre chose intéressante, là, qui est un petit peu moins connue aussi, je le sais parce que ma copine est finlandaise et il se trouve que le père de Linus est assez connu en Finlande. C'est un suédophone de Finlande. Ils sont divisés en deux groupes de langage, en fait. Et c'est un monsieur qui est un politicien qui est assez connu et qui a longtemps fait partie du Parti communiste. Et je me demande si l'inclination de Linus à ouvrir son truc et à partager, enfin cette culture du partage de l'open source ne lui est pas venue de son père qui était bon, il est toujours un petit peu en même temps dans le Nord ils sont tous socialo-communistes un petit peu, mais je me demande si ça lui est pas venu de son passé de communiste, enfin de l'ambiance familiale un petit peu de ce type de philosophie, quoi. Je sais pas. Peut-être.
Ben, y a forcément de ça quelque part. De toute façon, on ne naît pas avec toutes ces caractéristiques. Donc, oui, y a de ça.
Peut-être,
c'est sûr et certain. Ce qui est intéressant dans toute cette histoire, c'est qu'en effet, bon, Linux est très répandu de plus en plus, sans qu'on sache vraiment, etc. Aussi bien sur les serveurs, les supercalculateurs et compagnie. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des sociétés comme c'est vraiment représentatif, comme SFR, par exemple, qui fait partie des sponsors de Linux, alors à une très faible mesure, mais tu vois, le fait que des sociétés de téléphonie s'intéressent au développement du noyau, donc de Linux,
ouais.
C'est tout à fait représentatif de l'hégémonie du système, quoi.
Oui. Oui, okay. Oui, c'est sûr. Oui. Donc, bonne année.
Sans vouloir être trop geek, à l'époque, lorsque Linus a commencé à développer Linux, il y avait déjà plusieurs distributions Unix disponibles en open source à l'époque, mais il n'avait pas la licence qui permettait de modifier le kernel ou les extensions et forcer en fait la communauté à recontribuer ces modifications. Et donc, une des raisons qui l'a poussé initialement à ce développement, c'est forcer en fait un mode de licence du kernel, des extensions, etc., où la communauté serait forcée de recontribuer toutes les extensions, toutes les modifications, toutes les améliorations qu'ils apporteraient au logiciel.
Oui, tout à fait, oui, c'est l'un des facteurs clés, c'est sûr. Donc, bon anniversaire Linux, et pour fêter l'anniversaire, je ne sais pas, faites un câlin à un pingouin, par exemple. Bon, on va enchaîner avec d'autres news, là pour le coup vraiment un petit peu plus rapide. Sony et George Hotz sont arrivés à un accord discrètement. Le procès, bon, il est en...
Facebook, je me demande si... Allô ? D'accord.
Allô ?
Je pense que c'était moi, mais a priori c'est Patrick. Allô ?
Ah, c'est Patrick. Oui, non, je pense qu'on a perdu Patrick en fait. Patrick, es-tu là ?
La chat. Attends, on est toujours sur Skype.
Vous m'entendez là ? C'est bon ?
Oui, ouais, c'est bon, Patrick.
C'est la super joie du Mac. Le Mac vient de m'annoncer très joyeusement, vous devez redémarrer votre ordinateur. Appuyez sur le bouton Power jusqu'à ce qu'il soit éteint, sans aucune autre information, sans rien. Donc tout ce qui est sur l'autre, sur l'ordinateur, sur le Mac, là je suis revenu sur le PC, tout ce qui est sur le Mac est a disparu.
Oh.
Tout.
Ah, tu vois,
donc,
t'as eu le nez fin de plateforme. Hein.
Mais oui, carrément, ouais. Donc, super. Voilà. Mais je peux rien faire, hein. C'est juste, vous devez redémarrer votre ordinateur. Ok, d'accord. Bien joué. Donc, qu'est-ce qu'on disait ?
Qu'est-ce qu'on peut faire là ? On peut se remettre sur le truc ou faut que tu relances ton...
Non, c'est bon, on peut continuer. Heureusement, je suis en train d'enregistrer sur l'autre. Bah écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de l'émission. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler très rapidement de la boutique NoWatch, qui est le deuxième sponsor de cette émission. La boutique NoWatch, en fait, elle est accessible depuis le site nowatch.net et vous pouvez y aller pour voir tous les nombreux articles qui y sont disponibles. Vous allez voir qu'il y a des t-shirts, des goodies, même des sous-vêtements pour les gens qui aiment vraiment beaucoup NoWatch aux couleurs... Vous pouvez envoyer des photos par exemple. Il y a un string si je ne m'abuse. Donc, aux couleurs des émissions de NoWatch TV, NoWatch FM et The Lab. Et il y a énormément de choses différentes et avec beaucoup de prix différents. Ils sont de super bonne qualité, m'assurent les gens qui en ont acheté, c'est-à-dire les Cédric, Christophe, Jérôme, tous ces gens-là en ont depuis au moins un an et tiennent super bien. Et il y a différents prix, sachant que les articles un peu moins chers vont nous donner quelques euros. les articles plus chers, genre les articles collector, mécène, sponsor, tout ça, vous nous donnez un petit peu plus. Donc si vous voulez nous donner un coup de main et vous faire plaisir en même temps, vous pouvez aller sur le site nowatch.net et aller à la boutique, c'est la bannière en haut, et vous allez voir s'il y a des choses qui vous plaisent, ça peut faire d'une pierre deux coups. Donc,
et surtout, il ne faut pas oublier hein, qu'on publie les emails de ceux qui achètent le string.
Exactement. Donc, voilà pour la boutique No Watch. Et l'étape suivante de notre émission, c'est le passage de la statosphère de Guillaume qu'on va vous passer tout de suite.
Bonjour à tous. Fort d'une solide expérience dans la numérisation de livres, Google peut aujourd'hui se targuer d'avoir scanné plus de 15 millions d'ouvrages, soit plus de 10% de tous les livres jamais édités dans le monde entier. Désormais, un tiers d'entre eux sont exploités dans le cadre du programme Google Books Ngram Viewer, un formidable outil permettant d'observer des tendances dans ce corpus linguistique rassemblant plus de 500 milliards de mots. Le service est ainsi capable de générer un graphique, reflétant la notoriété de plusieurs expressions dont les courbes sont comparables entre elles. L'algorithme se veut rapide et efficace puisque Google Books Ngram Viewer est capable d'analyser en quelques secondes la littérature remontant au moins jusqu'au XVIIe siècle et dans plusieurs langues, chinois, hébreu, français, allemand, russe, espagnol et trois versions d'anglais. Enfin, comme l'affirme de Mountain View, n'oublie jamais que son objectif est avant tout de proposer un moteur de recherche infaillible, une sélection de livres contenant les expressions recherchées est accessible depuis la section Google Books du moteur de recherche. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr et le compte Statosphere sur Twitter. À bientôt.
Merci à Guillaume donc pour ces informations extrêmement intéressante. On enchaîne rapidement.
On a pas entendu, mais on pense que c'était vachement intéressant.
Non, mais moi je les ai entendus. C'est juste vous qui les avez pas entendus en fait. Et nos auditeurs les ont entendus aussi. Donc Jeff est en fait un petit peu pressé, donc on va enchaîner rapidement avec avec iTunes. Tiens, iTunes, c'est l'endroit où vous pouvez nous laisser des commentaires et des notes si vous voulez qu'on remonte un petit peu dans les classements, et en plus si vous voulez nous dire ce que vous pensez de l'émission. Donc vous pouvez aller sur iTunes, chercher le Rendez-vous Tech et nous laisser un nombre d'étoiles que vous jugez approprié et un commentaire, comme l'ont fait par exemple Tété Bonheur, Dell, un nom particulier, qui nous dit avec 5 étoiles, super podcast, toujours au rendez-vous pour le Rendez-vous Tech, moi aussi. Ilias nous dit j'aime avec 5 étoiles, merci, très bon podcast, c'est court et droit au but. Et l'Actu Geek par Cyberkick nous dit j'ai redécouvert ce podcast depuis que j'ai un autoradio, excellent podcast, c'est continué. Merci à vous trois, merci à tous ceux qui nous laissent des commentaires là-dessus, merci aussi à ceux qui nous laissent des commentaires sur le site, donc sur nowatch.net. Comme vous le savez, on l'a lancé il y a, ça doit faire à peu près un mois et des bananes. Scientifiquement, c'est je crois 3 bananes et demie. Donc, on a un petit peu plus d'activité là-dessus depuis ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à y aller aussi et à faire partie de la communauté. Et la fin de l'émission, ça va être le moment où on donne à Jeff et à Lionel l'occasion de nous parler de ce qu'ils font sur l'internet du Cybernaut. Jeff, où peut-on te retrouver ?
Twitter.com/Jeff, J-E-F-F, c'est l'endroit où je passe le plus de temps, trop de temps malheureusement. Autrement, Jeff Clavier sur pas mal de services, Facebook, Instagram et tout, et tout.
Merci Jeff. Lionel.
Alors, vous retrouvez également Bertrand de temps en temps sur Techno IT, donc le podcast sur l'actualité informatique en entreprise. D'ailleurs, la dernière émission vient d'être mise en ligne, enfin, il n'y a pas longtemps, hier. Et puis, donc, technoit.fr, nowatch.net, bien sûr.
Évidemment.
Le Twitter, c'est itislionel, itislionel. Et puis, si vous souhaitez m'envoyer le mail, ben, contact@technoit.fr.
J'en profite pour ajouter une petite note sur TechnoIT pour dire que c'est vraiment une émission en or pour les gens qui sont un petit peu plus versés dans le côté vraiment informatique, IT de la technologie. Nous, on parle de beaucoup de choses ici au Rendez-vous Tech, mais TechnoIT, c'est un petit peu plus spécialisé et c'est un coup d'œil assez rapide et très synthétique sur, d'une part, l'actualité de l'informatique en général et, d'autre part, sur certains sujets particulièrement intéressants. On a beaucoup parlé de sécurité aujourd'hui, mais si vous voulez en entendre parler plus dans les détails et entendre des informations, enfin un résumé sur l'histoire de la faille des certificats de sécurité dont on a beaucoup entendu parler il y a 2 semaines environ. Le dernier numéro est non seulement très bon parce qu'il est intéressant en soi, mais en plus, Lionel, j'ai trouvé que tu l'as tenu presque comme une histoire. Et j'ai envie de connaître la suite, quoi. Tu t'es arrêté en plein milieu du truc.
Oui,
je vais me précipiter sur le prochain épisode quand il va sortir. Si vous avez envie d'apprendre ce qui fait votre industrie vraiment en vous délectant d'un récit, allez-y, c'est Techno IT et ça vaut vraiment, vraiment le coup, quoi. Même si vous êtes juste, si ça vous intéresse un tout petit peu. Moi j'ai trouvé ça, j'aime toujours Techno IT, mais ce dernier épisode était... Et dis-moi juste question comme ça, oui, de podcasteur à podcasteur, tu as écrit le texte ou pas?
Oui.
Ah mais c'est ça.
Tout écrit en fait.
Tu sais, mais à chaque fois que je donne des conseils à des gens, je me rends compte, enfin à chaque fois je me dis, les conseils que je donne moi en tant que podcasteur, c'est des trucs, c'est enfin un petit peu vaguement conseillé, mais... N'importe qui peut venir et faire exactement le contraire et y arriver. Et moi, je dis toujours, faut pas trop écrire, sinon ça fait lu, etc. Et toi, tu y arrives super bien, quoi. Donc,
ça me fait plaisir ce que tu dis, parce que franchement, le dernier, je l'ai vraiment écrit comme ça, quoi. Je voulais vraiment que ça fasse... voilà, donc ça me fait plaisir. Mais voilà, bref.
Eh bien, écoutez, jugez par vous-même sur TechnoIT, sur nowatch.net, notamment. Merci à tous. Moi, donc, je vous dis simplement que c'est sur patrickbeja.com et note Patrick sur Facebook et Twitter. Et sur ces bons mots, je vous fais de bonnes bises, de grosses bises à tous. Et on se dit à dans 2 semaines. À bientôt. Ciao à tous.
Ciao.
Salut tout le monde.
Bon, merci les gars.
Merci Patrick, merci Jeff.
Merci Lionel, merci Patrick.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.